Bienvenue à bord de votre émission littéraire Wagon Livre, votre rendez-vous culturel comme chaque mercredi à 21h et c'est sur Radion. En ce 1er mai 2013, je me réjouis de fêter, avec notre invité que je vais vous présenter d'ici quelques secondes, je me réjouis de fêter le centenaire de la naissance de Max-Paul Fouché. En effet, cet humaniste aux talents multiples aurait eu 100 ans aujourd'hui même. Disparu dans sa 67e année en 1980 à Vézelay, nous avons ce soir le plaisir de retracer le parcours, de marquer les principales étapes d'une vie, d'une œuvre et d'un combat. Pour marquer ce centenaire, nous avons l'honneur d'accueillir Marianne Fouché. Bonsoir Marianne.
Bonsoir à tous, bonsoir Yannick.
Marianne, merci à toi d'être devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Tu es la fille unique du poète et tu es également secrétaire de l'association des Amis de Max-Paul Fouché.
Oui, une association qui réunit de très nombreuses personnes et notamment des écrivains, des artistes qui ont connu Max-Paul, mais aussi des jeunes dont ce parcours unique prend du sens pour eux et qui cherchent à s'y intéresser.
Max-Paul Fouché a beaucoup de cordes à sa lyre. Poète, essayiste, critique d'art, universitaire, critique littéraire, archéologue, ethnologue, auteur de films, écrivain et romancier. On va avoir beaucoup de mal à évoquer toutes les facettes de ton père, mais en tout cas, on va suivre le parcours de cette vie exceptionnelle. Il est né en 1913, un 1er mai 1913, dans un petit port du Cotentin, dans la Manche. Et puis, il y a quelque chose de très important dans l'enfance de ton père, c'est le fait que son propre père a été combattant, infirmier pendant la guerre de 14, et on reviendra blessé, gravement blessé, et notamment gazé. Et effectivement, Max-Paul, le petit Max-Paul, va perdre son père, c'est en 1929, et c'est, on peut dire, peut-être un des premiers traumatismes de sa vie et un élément marquant pour les idées et l'humanisme futur de ton père.
Oui, ce père a beaucoup compté dans sa vie puisqu'il était armateur, il était donc pacifiste et il a choisi d'être ambulancier à la guerre de 14 et non pas combattant. Souhaitant sauver des soldats allemands qui gémissaient de l'autre côté des lignes, il a enlevé son masque et il s'est trouvé gazé avec les poumons atteints. Ce qui a conduit cette famille normande à aller ensuite sur les conseils des médecins en Algérie pour soigner ses poumons. L'Algérie, c'est toute une aventure, bien sûr. On va y revenir parce qu'il y a fait la rencontre d'Albert Camus, mais il y a surtout fait ses premières, on va dire, découvertes culturelles et politiques. Mais ce père, lorsqu'il est décédé en 29, sur son lit de mort, alors que le jeune Max-Paul lui disait « je te vengerai », ce père lui a fait jurer de tendre la main aux Allemands par-dessus sa tombe. Et on est dans une situation où il y a beaucoup de symboles dans cette enfance. Il est né place de la République, il a été baptisé laïquement d'une goutte de Calvados. Les voiliers du père s'appelaient Liberté, Égalité, Fraternité. Il y avait également deux navires à vapeur, le Karl Marx et le Jean Jaurès. Et il a été baptisé sur le voilier Liberté, à mi-chemin des côtes de la France, pays de la Révolution de 1989, et l'Angleterre, pays de la Grande Charte. Beaucoup de choses pour déjà donner du sens au début d'un destin peu commun.
Alors, 1929, Max-Paul Fouché a 16 ans, son père disparaît. La famille s'était pourtant installée en Algérie et tu l'as dit, Marianne, effectivement, c'est en Algérie, jeune adolescent, que Max-Paul Fouché va créer le ciné-club d'Alger. Il s'intéresse tout de suite aux collections du musée d'Alger. Il y a un début d'engagement déjà du côté des jeunesses socialistes. Il est vraiment en effervescence sur de nombreux plans, y compris sentimental d'ailleurs.
Alors, on a des carnets de cette époque qui sont des carnets très très émouvants où l'on voit à la fois le jeune Max Paul noter ses lectures, en faire des grandes notes, noter aussi ce qu'il écoute, ce qu'il va voir au cinéma, tout ce qui, on va dire, est constitutif culturellement de sa découverte culturelle. Par ailleurs, il crée donc les Jeunesses Socialistes d'Algérie et il va faire des meetings dans ce que l'on appelait le bled à l'époque. Il a l'occasion, et il le dit, de rencontrer un homme qui garde précieusement le drapeau rouge de la commune. Encore une fois, des très beaux symboles, mais des symboles vivants. Et progressivement, bien entendu, il s'intéresse à la politique et bien évidemment à la guerre d'Espagne. Ce sont des choses qui sont loin de le laisser indifférent. Il discute de toutes ses découvertes culturelles avec un autre jeune homme qu'il a rencontré par le biais du boucher où il allait faire ses courses, c'est Albert Camus. Et quelque chose va à la fois les lier et les séparer. C'est
ils ont le même âge, hein. Ils ont le même âge.
Ils ont à peu près le même âge, effectivement. Et ils parlent de Dostoïevski, de Joyce, de toutes leurs lectures. Et d'un autre côté, Max Paul est tombé amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Simonier, qui sera la première Madame Camus. Et autre chose, Lélie, c'est qu'effectivement, les deux sont tuberculeux. Et quand Max Paul va au sanatorium de Saint-Hilaire du Touvet, où il rencontre René Daumal, où il va commencer à constituer également son propre chemin littéraire, eh bien, pendant ce temps-là, Camus, lui, pique, on va dire, Simonier, et ça mettra un véritable froid dans leur relation pour la suite.
Alors, en 1930, ton père, Max-Paul Fouché, fonde la Fédération des Jeunesses Socialistes d'Algérie. Il dirige aussi, enfin, il est partie prenante d'une revue dirigée par les mêmes socialistes à Alger qui a pour titre « Non » sur le mode exclamatif. Et d'ailleurs, dans « Fontaine de mes jours », qui est un livre d'entretien avec Albert Mermoud, paru chez Stock, livre qui est épuisé malheureusement, qu'on ne trouve plus.
On trouve sur Internet, oui. Comme la plupart des livres de Max-Paul Fouché qui ont eu un tel succès qu'aujourd'hui, il y en a peu de disponibles, il y en a quand même quelques-uns dans vos librairies. Et puis, sur Internet, on retrouve beaucoup de choses. Et c'est vrai que « Fontaine de mes jours » est l'équivalent d'un ce que je crois, ou d'un livre de souvenirs réécrit et très bien écrit d'ailleurs.
Alors pour évoquer cette revue et ce titre « Non » avec un point d'exclamation, dans « Fontaine de mes jours », Max-Paul Fouché dit à Albert Mermoud « Nous disions non à la guerre, au capitalisme, à l'exploitation de l'homme par l'homme, à la condition misérable réservée aux travailleurs musulmans, etc. » En bref, nous disions non à tout ce qui n'était pas le socialisme.
Et parler de l'Algérie et du colonialisme au travers de ça, c'est aussi dire la différence, une différence qui malgré tout va être significative avec Albert Camus et avec Jules Roy, puisque nous sommes à Vézelay, puisque les deux sont nés sur cette terre algérienne, et Max Paul étant une pièce rapportée, c'est-à-dire ce que l'on appelait un francaoui à l'époque, tout de suite, le colonialisme et la situation du peuple algérien le choquent. Et il écrit très jeune « Quand donc ce peuple se révoltera-t-il » alors que la situation et la façon de voir d'un Camus ou d'un Jules Roy est beaucoup plus mitigée, et certainement à l'époque. Ça fait partie des positions, d'ailleurs celle de Camus qui cherchait une troisième voie, n'est pas si clair tout compte fait, enfin elle est claire sans l'être, mais c'est évident que c'est différent selon qu'on est d'Algérie, on ne l'est pas. Et cette défense de la liberté pour Max Paul et ce respect des peuples étaient essentiels.
Ton père n'est pas qu'une figure intellectuelle. Bon, il est très jeune, en 1933, à un certain moment, il devient peintre en bâtiment et il s'engagera même comme mousse sur un paquebot, mais un peu en réaction à son beau-père qu'il n'apprécie pas du tout et dont il n'aime et n'approuve pas les idées politiques qui sont plutôt les idées d'une bourgeoisie capitaliste.
Oui, oui, tout à fait. Il a voulu faire l'expérience du travail de base et je pense que c'était très, très riche pour lui, cette expérience-là.
On sait aussi qu'il Il se sentait proche des travailleurs. C'était aussi une des raisons pour lesquelles, en 68, il prendra fait et cause pour les événements et pour le soutien également des ouvriers et de celles et ceux qui travaillent à l'usine.
Et en 68, c'était aussi surtout pour la liberté de la presse et la liberté d'opinion, puisqu'il avait été déjà plusieurs fois sermonné. La censure, c'est une longue histoire dans la vie de Max Paul, qu'il s'agisse de la période de la résistance ou qu'il s'agisse de la télé, dès qu'il s'est exprimé contre la guerre d'Indochine, contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam, contre la peine de mort, etc. On peut faire une longue liste de... Sur sa tombe, il est écrit « Il est mal à liberté ». Je crois que ça résume très bien les choses.
Alors, il faut rappeler, si besoin, que ton père est enterré au cimetière de Vézelay et qu'effectivement, il y a gravé sur sa tombe « Il est mal à... » celui qui est mal à liberté.
Hein. Il est mal à liberté. Il est mal à liberté. En choisissant en plus un endroit où les gens, s'ils s'arrêtent, auront une très belle vue sur le paysage. C'était volontaire.
Max-Paul Fouché aurait eu 100 ans, aujourd'hui 1er mai 2013. À notre manière, nous rendons hommage ce soir à celui qui fut homme de radio et de télévision d'une valeur exceptionnelle. On aura bien évidemment l'occasion d'en parler avec notre invité, sa fille Marianne Fouché, qui est avec nous jusqu'à 22h. Vous écoutez Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire hebdomadaire. On va parler de la revue Fontaine et de la Résistance. C'est la raison pour laquelle on va écouter le chant des partisans. On sait que cet hymne de la résistance française a été écrit par Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon. Et la musique a été composée en 1943 par Anna Marly. Voici donc le chant des partisans. On se retrouve dans quelques minutes avec Marianne Fouché pour cette émission consacrée au centenaire de la naissance de son père, Max-Paul Fouché.
Noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Le chant des partisans, à l'instant sur Radion, interprété par Germaine Sablon. Nous tentons ce soir de raconter le parcours, la vie et l'œuvre de Max-Paul Fouché, dont on commémore aujourd'hui même et tout au long de l'année 2013 le centenaire de la naissance. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h en compagnie de la fille de l'écrivain, Marianne Fouché. Marianne, le moment est venu de s'intéresser à la création de la revue de poésie Fontaine, revue de résistance, dont Max Paul va devenir le rédacteur en chef, en quelque sorte. Hein. C'est lui qui fédère les textes des poètes au cœur de cette revue. Alors, cette revue s'appelait initialement Mitra, et à partir du numéro 3, Max Paul Fouché reprend cette revue en lui donnant un autre titre, et le titre c'est Fontaine. Alors pourquoi Fontaine ?
Il semblerait que ce soit une référence à des vers de Samuel Coleridge, qui est un poète anglais de la première moitié du XIXe siècle. Vers disant « Partant de l'extérieur, atteindre la passion et la vie dont les fontaines sont à l'intérieur de l'âme ». D'autres éventuelles interprétations et propos de Max Paul diraient que c'est également en référence à un roman de Charles Morgan qui a eu beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelait Fontaine. Toujours est-il que dans un premier temps, si cette petite revue à l'époque, toute petite, avait pour objet de laisser s'exprimer une nouvelle poésie, très rapidement avec la guerre, on va se retrouver dans une revue qui sera la revue de la résistance en pleine lumière, puisqu'elle est à Alger, qui n'est pas occupée, et qu'elle permet de laisser s'exprimer un certain nombre d'aujourd'hui grands auteurs, poètes à l'époque, et on y voit écrire Aragon, on y voit écrire Éluard, on y voit écrire énormément d'autres poètes, Pierre-Emmanuel, René Daumale. Et en fait, cette revue dirigée par Max Paul vaut aussi pour ses éditoriaux. Pourquoi par ses éditoriaux ? Parce qu'un certain nombre d'éditoriaux sont célèbres, et notamment un éditorial qui s'appelle « Nous ne sommes pas vaincus », qu'il a écrit en juin 40 sans connaître l'appel du général de Gaulle, sur la plage où se fera ensuite le débarquement allié en Algérie, et qui voulait avant tout dire, alors que la thèse vichiste était de dire que si la France avait perdu face aux Allemands, c'était bien à cause de ces intellectuels décadents, qui était de dire que les victoires ou les défaites étaient passagères, mais les vraies victoires se mesuraient à l'aune des civilisations et de l'esprit, et notamment de la poésie.
En ce qui concerne la résistance telle que Max Paul Fouché l'envisage, toujours dans Fontaine de mes jours, chez Stock, ton père dit « La résistance que je souhaitais que Fontaine exprimât, c'était l'éternelle résistance de l'homme contre la tyrannie, sa révolte fondamentale, non chronologique somme toute, contre le mal. Ainsi, pensais-je, la poésie gagnerait son éternité, les hommes de mon temps l'entendraient, tel un chant de liberté aussi bien que les hommes futurs, puisque le même combat recommence sans cesse et que la semence du dragon demeure. » Alors, en 1942, Max Paul fait paraître un poème très 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 célèbre d'Éluard, en juin 42, c'est le fameux « J'écris ton nom », ce poème qui est un hymne à la liberté.
Voilà, qu'on a donc rebaptisé « Liberté ». Fontaine était évidemment sous l'œil, malgré tout, de la censure allemande. Et il est amusant d'imaginer que, parce que ce poème s'intitule « J'écris ton nom au départ », le censeur qui regarde ces textes rapidement dit « Ah, c'est français, un poème d'amour ». Alors qu'en fait, c'est un poème d'amour, mais à la liberté, et un poème ô combien subversif.
En tout cas, Max Paul a été assez futé, puisque, en fait, par cette audace, il a réussi à tromper la censure. Alors, ton père a aussi mené des missions en France occupée. C'est notamment le cas en mai 42.
Il y avait le problème de récupérer les textes. Donc, un grand poète qui s'appelle Georges-Emmanuel Clancier, qui était collaborateur de la revue Fontaine, qui était à Limoges en France, faisait par exemple lui aussi partie des chemins d'acheminement des textes. Et il y avait plusieurs voies. Il y en avait qui passaient par la Tunisie, d'autres par le Maroc. Et également, Max Paul monte à Paris à un moment pour récupérer des manuscrits. Il va également plus tard, en 1943, aller à la BBC, prononcer ce que lui a appelé des talks dans l'émission « Les Français parlent aux Français » où il va s'exprimer en direction de la France occupée. Et puis on a sur cette table quelque chose de très très émouvant, c'est l'édition anthologique de la revue Fontaine,
une petite miniature.
Édition miniature, oui, qui était parachutée par la RAF dans les maquis. Et l'exemplaire que nous avons là, c'est l'exemplaire que René Char lui-même a amené à Max Paul dans les bureaux de Fontaine à Alger, alors qu'il ne se connaissait pas, avec une tache de sang qui est la tache de sang d'un maquisard. C'est un objet ô combien symbolique.
Alors, on pourrait vraisemblablement parler plus longtemps de la revue Fontaine. Je voudrais simplement dire que la dernière parution de Fontaine, ça date de 1948 avec le numéro 63.
C'est vrai que la revue, une fois la guerre terminée, est venue s'implanter à Paris. Il y a eu les éditions de la revue Fontaine qui ont été le début, on va dire. Déjà, dans Fontaine, on parlait des écrivains étrangers, puisqu'il y avait plusieurs numéros qui avaient été dédiés dans leur intégralité à la littérature étrangère. Mais là, dans les éditions de la revue Fontaine, on a vu apparaître et publier des premiers écrivains étrangers qui ensuite... Fontaine a travaillé un temps aussi avec les éditions de Minuit. Mais c'est vrai que les conditions deviennent différentes et quelque part plus difficiles dans la France libérée.
Il faut parler d'une femme, c'est Jeanne Girardi, parce que on peut dire aussi que s'il y a la mort du père et que ça a été un drame pour Max-Paul Fouché, il y a une autre douleur, une autre disparition et tragique, c'est celle de Jeanne Girardi. Marianne, parle-nous et rappelle tout de même qui était cette femme qui vraisemblablement a beaucoup compté dans la vie et dans le cœur de Max-Paul.
Jeanne, il l'a épousée, ça a été sa seule et unique femme, et c'était un grand amour, c'était aussi une femme engagée, elle a travaillé à construire Fontaine avec lui, et il arrive un drame, elle meurt dans le naufrage d'un paquebot qui s'appelait le La Mauricière, qui joignait l'Algérie au continent, enfin à la France. Et donc...
Elle embarque pour aller passer l'agrégation voilà. En France.
Et donc, quand ce bateau est à quai, ce bateau se nomme le général La Mauricière. Et Max-Paul dit qu'il a lu La mort ici, R. Et il dit également que dans ses poèmes qu'il écrivait dans les mois précédents, la mort et l'eau étaient très présentes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le bateau fait naufrage, il y a des survivants, et il sait, quelque part, de façon subliminale, que Jeanne n'en fera pas partie. Et pour lui, quelque part, la poésie, en dehors d'être quelque chose d'essentiel, il y a des très beaux textes sur la poésie, c'est aussi quelque chose qui a une valeur, on va dire, de prémonition.
Il fallait effectivement parler de cette femme qui a tant compté dans la vie de Max-Paul Fouché. Fondateur de la revue Fontaine, il fut poète, écrivain, essayiste, voyageur et homme de médias. Nous continuerons à évoquer la vie et l'œuvre de Max-Paul Fouché après un nouvel intermède musical. Voici un titre de Léo Ferré, « Poète, vos papiers ». C'est d'ailleurs le titre du premier recueil de poésie que Léo Ferré avait fait paraître en 1956 aux éditions de la Table Ronde. Bonne soirée sur Radio, on se retrouve dans quelques minutes avec Marianne Fouché pour notre émission hommage à son père, Max-Paul Fouché.
Bipède, volupteur de lyre, épouchâtré de polymnie, vérolé de lune à confire, grand-duc bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète, vos papiers, poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman, et j'ai bouffé l'itré. Et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino. Les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore clic-quic, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, chair à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la Légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur, poète, vos papiers. Poète, papier, le dictionnaire et le porto à découvert. Je débourre des mots à longueur de pelure. J'ai des idées au frais de côté pour l'hiver, à rimer le beefsteak avec les engelures. Cependant que Zara enfourche le bidet à l'auberge d'Ada, la crotte est littéraire, le verre est libre enfin, et la rime en congé, on va pouvoir poétiser le prolétaire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle, sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public des croquants, anonyme qui s'en tribune, à la barbe des continents, poète, voix papier, poète, documenti, littérature obscène, inventée à la nuit. Onanisme torché au papier de Hollande. Il y a partout Almistiche, mes amis. Et que m'importe alors Jean Genet, que tu bandes. La poétique libérée, c'est du bidon. Poète, prends ton verre et fous-lui une trempe. Mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon. Et ta muse sera sapée comme une vente. Citoyen qui sente la tête, papa gâteau de l'alphabet, maquereau de la clarinette, graine qui pousse des gibets, châssis rouillé sous les démences, corridor pourri de l'ennui, hygiéniste de la romance, rédempteur falot des lundis, poète, voix papier, poète. Que l'image soit rogue et l'épithète au poil, la césure sournoise certes, mais correcte, tu peux vêtir ta muse ou la laisser à poil. L'important est ce que ton ventre lui injecte. Ces seins oblitérés par ton verre barlequin gonfleront goulûment la voile aux devantures, solidement gainée ta lyrique putain, tu pourras la sortir dans la littérature. Ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur aux bras déployés, pollen au rabais pour abeilles, tête de mort rasée de frais, rampante service aux étoiles, poitre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa voile à la devanture du coin. Poète, circulez, poète, circulez, poète, circulez.
Poète vos papiers par Léo Ferré. Alors une superbe transition, toujours avec Marianne Fouché pour parler de Max-Paul Fouché, qui aurait eu 100 ans aujourd'hui jour pour jour. Max-Paul, écrivain, romancier, journaliste, homme de radio, homme de télévision, ethnologue, archéologue, mais aussi poète. On a parlé de Jeanne Fouché, la seule femme de Max-Paul, morte noyée dans le naufrage du paquebot La Mauricière. C'est donc en 1940, il épouse Jeanne, mais c'est en 1942 que le navire fait naufrage et que Max-Paul est veuf. Il y a un poème qui fait référence à cette Jeanne Fouché qui est morte noyée. Ce poème a pour titre La mer intérieure. Alors, il y a un recueil très connu qui a pour titre Demeure le secret, qui date de 61 et qui a été réédité chez Actes Sud en 85. Et puis, il y a aussi, dans Demeure le secret, un très, 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 très grand poème de 22 pages et qui a pour titre Héraclès. Alors, parler de Max-Paul poète, c'est peut-être pas facile, surtout quand on est la fille de cet homme.
Ma foi, la poésie, il disait lui-même que pour lui, parmi toutes ses activités, c'était choisir la diversité mais lui donner un centre, choisir pour centre l'homme et choisir comme moyen de l'atteindre la poésie. Donc la poésie comme moyen, bien entendu, d'être au cœur des choses. Il disait aussi l'exercice poétique dans toute sa rigueur est semblable à la mise au radeau pour les bateaux. Il faut se dépouiller de l'adventice, du discours du non-essentiel. Et il disait, elle résulte d'une volonté d'atteindre l'intérieur ou qu'elle y soit située dès le départ, elle est un abandon des structures superficielles, autrement dit des mensonges, des fausses apparences, des simulacres. L'exercice de la poésie tend à nous faire rejoindre une part intacte de nous-mêmes. C'est là un processus que je dirais révolutionnaire, dans la mesure où il détruit les privilèges pris par les faux-semblants, où il brise les usurpations des fausses richesses. Pour moi, la poésie sous sa forme la plus haute est révolution et révélation. Et le poème Héraclès prend toute sa dimension, donc qui est dans le recueil de Le Secret, paru chez Actes Sud, est toujours disponible, prend toute sa dimension à la lueur de ces mots.
Pour Max Paul, la poésie peut avoir une action révolutionnaire. Pour lui, c'est très, très important. Et d'ailleurs, dans le livre d'entretien, Albert Mermoud fait un rapprochement entre Max Paul et Victor Hugo. Il dit que tous les deux ont la même vitalité. Et j'ai appris d'ailleurs en lisant Fontaine de mes jours que ton père s'était vu proposer le rôle de Victor Hugo dans un film par un réalisateur français.
Et il a aussi écrit sur Victor Hugo, puisqu'il y a un livre Victor Hugo, Imagier de Londres. Il a fait un film sur Victor Hugo également. Pour lui, la poésie était effectivement un exercice spirituel. Il y a un célèbre numéro de la revue Fontaine qui s'appelait « De la poésie comme exercice spirituel », numéro qui, à cette époque-là, fit beaucoup de bruit. Et cet aspect-là, je pense qu'il sera également développé dans la journée d'études qui aura lieu le 3 août, que notre ami Christian Limousin pilote, sur Vézelay, Max Paul Fouchet et l'esprit franciscain, et en quoi ces aspects spirituels peuvent avoir guidé un certain nombre de ses choix et de ses passions pour certains auteurs.
Il faut dire aussi qu'à un certain moment de sa vie, mais c'est jeune, Max Paul a envisagé devenir franciscain. Alors que finalement, son enterrement en 1980 a lieu, certes, à la basilique de Vézelay. Le cercueil de ton père était recouvert d'un drap rouge, mais il n'y a pas eu de messe.
Non, c'était un agnostique mystique, tout à fait, plus proche de la spiritualité, l'esprit franciscain, mais pas forcément et pas du tout quelqu'un de croyant dans les actes. Néanmoins, voilà, la poésie, révolution, révélation, spiritualité qui nous pousse à nous dépasser.
Il faut dire aussi que ton père cultivait la solitude. Il écrit ses poèmes dans la solitude et notamment dans la maison forteresse de Vézelay, où nous enregistrons cette émission aujourd'hui. Franchement, quel bonheur, nous sommes dans la maison de Max Paul, je suis avec la fille de Max Paul, et puis il y a cette édition miniature de Fontaine que René Char a remise en main propre à ton père. Ça fait quand même beaucoup d'éléments extraordinaires autour de nous. Alors cette maison de Vézelay, il l'acquiert en 57.
Oui, il a un accident de brousse en Afrique à la période à la suite de laquelle il a écrit par exemple le livre Les Peuples Nus. Et il a des côtes fêlées et il vient en convalescence dans la maison d'amis très proche qui est Marie-Madeleine Gauthier, comédienne de la troupe des Copiaux, donc troupe bourguignonne, la maison à Vézelay, et il tombe amoureux de Vézelay. Et dès qu'une maison se libère, il l'achète. C'est cette maison où nous sommes, qui est la maison de l'ancienne argenterie, qui est une maison qui a des caves du XIIe siècle, qui est une maison ancienne, et il écrit que les vieux murs de la maison lui parlent. Et volontairement, ici, il n'y avait pas le téléphone. C'était une façon de se couper de son immense notoriété et popularité liée aux médias, puisque du coup, il pouvait venir écrire dans le calme et s'inspirer des paysages alentours. Vézelay lui tenait vraiment, vraiment au cœur. Et il y a, sur le site de l'INA, un certain nombre d'extraits où l'on peut voir Max Paul Fouchet, dont un petit film qui s'appelle Le Voyageur à l'encre, où on le voit dans cette maison et à Vézelay.
Dans Fontaine de mes jours, voici ce que Max Paul Fouchet dit de son bureau dans cette maison forteresse ici à Vézelay. Je le cite. « À Vézelay, J'ai placé mon bureau de telle façon que je ne puisse voir, lorsque j'y travaille, qu'une mince ligne d'horizon et l'immensité de ciel. Le paysage, du haut de la colline de Vézelay, est l'un des plus beaux et des plus vastes de France. Mais je vis bien plus avec et dans son ciel, avec cet espace de silence que corbeaux et corneilles coupent de leurs ailes comme avec des ciseaux. Tourné vers l'ouest, sans quitter ma table, je suis le témoin des couchers de soleil dont la lumière d'abord se retire de colline en colline, ainsi qu'elle fait sur l'eau des ports de Lorrain, puis se redéploie dans le ciel où sa traîne longtemps d'or se transforme en lit de braise comme ceux que les nomades abandonnent derrière eux. Enfin viennent les roses, les mauves, les bleus sombres et la solitude, héroïne du spectacle, passe dans la nuit. Jamais autant qu'en de telles heures, elle n'est plus nécessaire, plus profonde, plus généreuse.
Eh oui, solitude à Vézelay, communication, puisque il fut l'un des pionniers de la télévision. Et ça peut paraître paradoxal, mais cette solitude lui était nécessaire pour se ressourcer. Et de l'autre côté, ce qu'il voulait faire, c'était partager avec le plus grand nombre des œuvres.
Justement, cette générosité, il la porte aussi sur son visage, très rond, comme le tien aussi. Tu ressembles beaucoup à ton père.
Oui, il paraît, mais c'est plutôt un compliment.
Et il est question de sa rondeur. Albert Mermoud, dans Fontaine de mes jours, lui parle de sa rondeur. Et Max Paul, finalement, n'a pas toujours été très souple, parce qu'adolescent à Alger, il avait la castagne facile, il le dit, il donnait facilement des coups de poing.
Puis c'était un grand maigre aussi jeune.
Et quel souvenir tu gardes de ton père, quand bien même il est mort lorsque tu n'étais qu'une jeune fille de 20 ans quelle image tu gardes de ton père
Moi j'en ai une image formidable, parce qu'en fait nous étions très proches. Il ne m'a jamais prise pour une enfant, alors c'est peut-être un tort, mais il m'a toujours parlé, expliqué les choses et on va dire donné une forte conscience. On regardait les informations ensemble, il me les décryptait. Il m'est arrivé de voyager avec lui. Il était même étonné que petite, je ne sache pas les choses qui pour lui paraissaient élémentaires, alors que c'était un grand pédagogue. Mais sur ces côtés-là, voilà, j'avais beaucoup de chance. Les livres arrivaient par dizaines le matin dans la boîte aux lettres. Je pouvais tout lire et puis j'avais des explications derrière, une remise en contexte et en condition. Et quand je rentrais de l'école à 17h, il était en train de préparer ses chroniques musicales, donc il écoutait diverses versions d'une même œuvre, et j'allais l'embrasser, et puis je m'asseyais à côté, et puis voilà. J'avais droit à des explications d'une richesse phénoménale, et puis on s'aimait vraiment beaucoup.
Tu as bien sûr beaucoup plus vécu à Paris qu'à Vézelay.
En fait, je venais à Vézelay à chaque fois, presque qu'il y venait, au risque de sécher l'école. Donc finalement, entre les grandes vacances et les week-ends et les autres vacances, je pense, finalement, pour moi, être à Vézelay, c'était presque 5 mois par an. C'était presque un peu moins de la moitié.
Alors, il faut quand même expliquer à nos auditrices et auditeurs. Donc, Max Paul a rencontré ta mère, Marguerite Giclon, en 1945. Ils s'installent ensemble en 1955. C'était un couple étrange ?
Un petit peu particulier, on dira ça. Et moi, je suis née en 60. Donc voilà, je suis quelque part, on peut dire, une fille de vieux, parce que Max Paul avait 47 ans hein, quand je suis née. Quand il est mort à 67 ans, on ne s'y attendait absolument pas du tout. Il était en pleine création, il avait beaucoup de projets et cette hémorragie cérébrale a surpris tout le monde et a été un choc. Et Yannick, tu parlais de cet enterrement. Fin août 1980, il y a eu plus de 3000 personnes, alors qu'on était encore pendant la période des vacances, de la France entière, des écrivains, des artistes, des hommes politiques qui se sont déplacés pour lui rendre hommage. Voilà, et ben, c'est vrai que cette année du centenaire, avec l'association, nous avons cherché à offrir beaucoup d'événements. J'incite les auditeurs à aller voir sur le site www.maxpaulfouchet.com. Et le programme est perpétuellement enrichi, mis à jour, et ils apprendront encore beaucoup d'autres choses sur Max Paul.
Alors certes, on commémore le centenaire de sa naissance, mais je rappelle que est disponible chez Actes Sud l'éloge de Max Paul Fouché par Jules Roy, puisque Jules Roy a prononcé donc le 25 août 1980 dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay un éloge à ton père. On va se retrouver dans quelques minutes, on marque un nouveau temps de pause. Je voudrais simplement dire à nos auditrices et auditeurs que la semaine prochaine, à partir de 21h, je vous proposerai un entretien avec Paul Constant de l'Académie Goncourt pour son dernier roman « C'est fort la France » paru chez Gallimard. C'est donc un rendez-vous à noter, c'est mercredi 8 mai à 21h, toujours sur Radion. On se retrouve dans quelques minutes, le temps pour Marianne et moi-même de nous rafraîchir. Hommage à Max-Paul Fouché ce soir. On écoute un titre espagnol, Los Hermanos, interprété par Atahualpa Yupanqui, qui était poète, chanteur et guitariste argentin et qui est mort en 1992 à Nîmes et dont la dépouille repose dans son pays, en Argentine. Voici donc Los Hermanos d'Atahualpa Yupanqui.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Retour à bord de Wagon Livre avec notre invitée Marianne Fouché, la fille de Max-Paul Fouché pour le centenaire de la naissance de son père. Cette émission sera disponible à l'écoute et en téléchargement dans quelques jours sur le site internet de Radion. Impossible quand on évoque Max-Paul Fouché, Marianne, impossible de ne pas parler de l'appel du voyage, l'appel de l'ailleurs. Hein. On peut dire qu'il y a quelque chose de rimbaldien, une sorte de voix rimbaldienne chez lui. Il parle d'ailleurs de la vertu insatisfaisante du voyage.
Alors, parler du voyage dans wagon-livre, ça s'impose.
Absolument.
C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'était que voyager il y a encore une soixantaine d'années. C'était quelque chose d'étonnant, c'était quelque chose d'extraordinaire, et pour lui, c'était une façon d'aller à la rencontre des autres. Découvrir des civilisations, découvrir des êtres humains, et il en nous en a laissé des traces au travers de ses photographies. Puisqu'en fait, quand il voyageait, à la fois en sont issues des émissions, donc des films, des photographies et des livres. Donc nous avons à la fois un mélange entre le quotidien des gens et puis l'art de ces gens. Et il disait, j'ai toujours eu devant moi une sorte d'attelage, quatre chevaux. Le cheval de flèche, c'est la poésie, nous en avons parlé. Les trois autres chevaux qui sont derrière sont la musique, la littérature et l'art, les arts plastiques. Quatre expériences qui constituent une seule et même expérience, celle de la beauté humaine, celle de la création et celle de la connaissance.
Et pour lui, vraiment, les voyages sont une recherche du destin de l'homme et une rencontre avec toutes les civilisations. Alors, ton père part sur tous les continents. Les Indes, il a ramené « L'art amoureux des Indes hein, ». C'est un livre sur l'érotisme sacré dans la sculpture indienne. Il voyage en Amérique du Sud. C'est la raison pour laquelle on a passé tout à l'heure « Los Hermanos ». Les frères, avec un message humaniste, vraisemblablement de solidarité et d'entraide. D'autres éléments sur les voyages. Toi-même, tu as voyagé un peu avec ton père ?
Un tout petit peu.
À l'étranger ?
Parce que je l'accompagnais pendant les tournages. Ça m'est arrivé ou pendant des conférences, où j'avais aussi le privilège, je suis allée au Mexique avec lui.
Alors, il aurait aimé être mexicain, dit-il à Albert Mermoz.
C'est vrai que l'Amérique latine, l'Amérique centrale a beaucoup compté. Il était très ami avec Alejo Carpentier et d'autres écrivains d'Amérique latine. Il y avait une véritable, pour lui, fraternité avec ces pays-là et cette culture. Un livre qui s'appelle « Terres indiennes », par exemple. Mais l'Afrique aussi, puisque les peuples nus en sont un exemple.
C'est en 1953, hein, donc le livre « Les peuples nus ».
Tout à fait.
Il y a la Nubie aussi. Alors, il va en Nubie avec une température, il fait 45 degrés en permanence. Mais là, il y va dans le cadre d'une mission pour le sauvetage
des monuments. D'Abou Simbel, puisque le barrage d'Assouan allait être construit. Et donc, ces monuments ont été démontés pierre par pierre et remontés sur la colline au-dessus. Et donc, pour lui, tout ça s'est évidemment traduit par ce qu'il a transmis au travers de ses conférences, de ses livres, de ses émissions de télévision ou de radio. Et on a là une idée que la culture, c'est important. Et pour lui, le but d'une culture, c'est la possibilité qu'elle offrait de rejoindre les autres. Il disait « en créant entre eux et nous un pont d'œuvres et d'images ». La culture vraie ne peut se fonder sur l'univoque. Elle doit intégrer en elle le maximum d'expérience humaine, laquelle est diversité. Quand elle l'aura suffisamment assumée, alors elle pourra proposer, je ne dis pas imposer, une synthèse libre, ouverte et respirante. La culture, il faut la transmettre, sans quoi elle stagne, pourrit sur elle-même. La transmettre et non l'imposer afin que s'établissent des échanges, des dialogues, des comparaisons. S'il est évident que toute culture ne peut être que personnelle, il n'est pas moins patent que seulement individuelle et séparée des autres, elle court le risque d'un enlisement.
On comprend aussi tout l'intérêt que ton père a eu à faire des films sur l'art, hein, à soutenir l'art, l'archéologie aussi, je pense à l'art de Carthage en 62, ou alors à différents peintres. Hein. On reviendra d'ailleurs à Max-Paul Fouché, homme de télévision. Concernant les voyages, effectivement, il en a aussi ramené des photographies. Il y a ce Rolleiflex qu'il acquiert en 52 et qui se trouve ici, d'ailleurs, sur le bureau de Max-Paul Fouché. Marianne, on va marquer la dernière étape musicale. C'est toi qui nous l'as suggéré. On écoute Tracy Chapman, Talking About a Revolution. C'était en 1988. Bonne soirée sur Radion. Vous écoutez Wagon Livre, une émission hommage à Max-Paul Fouché à l'occasion du centenaire de sa naissance. On se retrouve dans quelques minutes avec Marianne Fouché.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those themselves, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution.
Retour à bord de Wagon Livre avec notre invitée Marianne Fouché à l'occasion du centenaire de la naissance du poète, écrivain, homme de radio et de télévision Max-Paul Fouché. Justement, Marianne, parlons des activités de radio et de télévision de ton père. Je voudrais juste citer ce qu'il dit à Albert Mermoud concernant cette carrière qui a été finalement interrompue par sa mort. Je cite Max-Paul Fouché. Je ne regrette pas ces années consacrées à la communication humaine par les masses médias. Au contraire, c'est par les milliers de lettres reçues que j'ai pris conscience de la solitude des êtres, car le mot et l'idée de la solitude y revenaient sans cesse comme un leitmotiv. Sans la télévision, je serais encore un intellectuel muré entre ses livres, un poète pour poète.
Alors, c'est vrai que la télévision, quel moyen exaltant, et c'est très rapidement, dans les années 50, que Albert Olivier, qui s'occupait de l'unique chaîne de télévision de l'époque, lui propose, après une intervention dans une petite émission qui s'appelait « Trois objets, une vie », de créer une nouvelle émission qui s'appelait « Le fil de la vie », chronique quotidienne sur hebdomadaire, pardon, sur la vie quotidienne, donc
et les problèmes de société contemporaine,
les problèmes de société, et également il leur fait découvrir l'Inde. Il y a un livre presque introuvable aujourd'hui qui s'appelle Le fil de la vie, qui réunit ces chroniques. Et puis c'était la première fois aussi, début de la télévision, où quelqu'un s'adressait en direct, les yeux dans les yeux, au public. Ensuite, il y a eu évidemment Lecture pour tous avec les deux Pierres, Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes et Nicole Védresse, dans lequel, à la fin de chaque émission d'une heure, il passait 10 minutes à faire découvrir au public des écrivains et des livres. À l'époque, le livre était aussi un objet pas forcément d'accès facile. Donc, il a fait beaucoup découvrir la littérature étrangère.
Et puis, ce qu'il faut dire aussi, Marianne, c'est que c'était pas lecture pour tous, n'était pas qu'une émission pour intellectuels, c'était une émission vraiment grand public. Il y a une vraie volonté de vulgariser chez ton père, hein, de rendre la culture accessible à toutes et à tous, sans exception.
Tout à fait. Des émissions sur la culture à 20h30. qui peut en dire autant aujourd'hui ? Et puis il disait, je me suis aperçu en pratiquant la télévision et la radio que la difficulté ne résidait pas dans le fait de vulgariser, ce qui somme toute est assez aisé, mais lorsqu'on vulgarise, on simplifie. Autrement dit, on paye en monnaie de singe. Vulgariser, c'est aussi considérer les autres comme incapables de comprendre une discipline difficile, élitisme révoltant et rabaisser la qualité de ce que l'on veut transmettre. En conséquence, une certaine forme de vulgarisation fondée sur la simplification doit être exclue. En revanche, ce qui s'impose, c'est la clarification. Clarifier n'est pas simplifier, mais clarifier demande un effort considérable à celui qui veut transmettre une connaissance, un effort vis-à-vis de lui-même. Clarifier demande à l'esprit des qualités particulières d'analyse, de synthèse, de formulation. Il s'agit d'une conquête sur soi-même. Pour ma part, j'ai d'abord simplifié. Il m'a fallu plusieurs années pour apprendre à clarifier. Je m'y employais au bénéfice des autres et sans m'en rendre compte, à mon propre bénéfice.
Le célèbre Lecture pour tous, donc, qui a régné sur la télévision de 1953 jusqu'à 1968, va s'interrompre en raison des événements de mai 68. Alors, en 68, ton père est partie prenante de l'agitation dans les rues et surtout dans les esprits. D'ailleurs, il participe aux événements comme président du syndicat national des producteurs de télévision.
68, oui, j'étais effectivement une petite fille, mais avec un père qui menait des manifestations, qui allait à la Sorbonne, qui rencontrait des étudiants. Dans cet esprit de défense de la liberté qui a toujours été le sien. Et évidemment, ça a conduit à une liste noire et au fait que Lecture pour tous s'est interrompue, comme l'avait été Le fil de la vie 10 ans plus tôt. Également des films qui n'ont pas été projetés, comme des films sur Cuba qu'il avait fait à cette époque-là. Et puis un retour à la télévision en 73-74 avec donc pour le centenaire de l'impressionnisme, une grande série pour les impressionnistes. Nombreuses chroniques de Lecture pour tous sont également visibles sur le site ina.fr. Voilà, les médias, un choix avec également beaucoup de radio, de la radio à Alger au moment de la résistance, des émissions liées à la revue Fontaine, des émissions dans le cadre de l'Alliance française pour les Français de l'étranger, et puis le journal musical d'un écrivain qui fut sur RTL après son exclusion justement des médias d'État entre 68 et 70, une émission quotidienne dans laquelle il faisait découvrir la musique et toutes sortes de musiques. La musique était essentielle pour lui. Et ce partage avec tous. Et il a dit, dans la mesure où ma vie a été consacrée à faire un tout petit peu de beauté, personnellement, et à transmettre la beauté des autres au plus large public possible, je ne propose pas de méthode ni de système, mais avec beaucoup d'humilité, croyez-moi, un exemple. Donc, j'espère que nous vous avons fait partager un peu du parcours et du destin de Max Paul et que vous saurez le retrouver cette année du centenaire et en de multiples autres occasions face à un livre où vous lirez ses poèmes.
Alors, on peut bien sûr mentionner tous les ouvrages de Max Paul. Merci, Marianne, d'avoir été ce soir devant le micro en ce jour qui marque le centenaire de la naissance de Max Paul Fouchet, ton père, ce professeur d'enthousiasme, cet aventurier de l'esprit, se marier à la poésie. Bien évidemment, on peut se plonger dans son roman, La rencontre de Santa Cruz, dans ses récits, dans ses nouvelles. On peut feuilleter les livres que ses voyages lui ont inspirés, visionner ses émissions télévisées, réécouter sa voix et partir à la découverte des expositions nombreuses en cette année du centenaire qui lui sont consacrées jusqu'au 30 novembre au musée de la Vallonnais où il y a ce portrait de Max-Paul Fouchet par Reynold Arnoux dont tu as fait don cette année à la ville d'Avallon. Il y a des objets exotiques d'Afrique de l'Ouest, des dons récents d'ailleurs. Il y a des objets d'Égypte antique qui ont été ramenés par Geoffrey Saint-Hilaire de sa campagne d'Égypte avec Napoléon. Et puis il y a une exposition toujours au musée de la Vallonnais à Avallon, bien sûr. Exposition autour des livres sur les peuples en voie d'émancipation, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Égypte. Et puis on mentionnera le 29 juin à Vézelay, à la Maison Jules Roy, Marianne, une journée d'études, l'Algérie, temps d'éveil et d'engagement pour Max-Paul Fouchet. Notre ami Christian Limousin Lui interviendra au centre Jean-Christophe à Vézelay le 3 août prochain pour une journée d'études qui aura pour thème Vézelay, Max-Paul Fouché et l'esprit franciscain. Et puis jusqu'au 18 mai, à Avallon, il y a une exposition Max-Paul Fouché 1913-1980, poète de la liberté. Et Noyères-sur-Serein, un petit mot sur le musée des arts naïfs et populaires de Noyères-sur-Serein qui accueille une exposition Max-Paul Fouché et l'art naïf. C'est jusqu'au 30 novembre prochain. Marianne.
Je rajouterais que l'exposition Max-Paul Fouché, poète de la liberté, est donc dans les deux bibliothèques, la bibliothèque Gaston-Chessac et la bibliothèque du quartier populaire de la Morlande, qui depuis hier, 30 avril, porte le nom de bibliothèque Max-Paul Fouché. C'était un souhait de la municipalité et nous en sommes absolument ravis que tout le monde puisse accéder à la culture au travers de Max-Paul Fouché. C'est un fort symbole.
Nous souhaitons une excellente fin de soirée à toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre. Merci à toi, Marianne, d'avoir été devant notre micro. Ça nous fait très plaisir.
Merci Yannick de ta sensibilité à l'œuvre de Max-Paul Fouché. Et j'espère que les auditeurs auront pris plaisir à cet échange et à cette découverte future.
L'émission sera accessible d'ici quelques jours en podcast sur le site de Radio. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 8 mai, pour un entretien avec Paul Constant de l'Académie Goncourt. Toujours à partir de 21h et c'est sur Radio. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.